Bon matin à tous. Ça va être fait. Merci pour ce privilège que vous me permettez de venir apporter la parole de Dieu, présenter mon ministère. Merci aussi de tout cœur pour votre soutien financier dans la prière. Déjà, je rencontrais quelques personnes à l'église que je n'avais jamais vues avant. Eux me semblaient me connaître et donc ils disaient qu'ils sont dans une cellule de prière et qu'ils prient pour moi et qu'ils connaissent, qu'ils lisent mes lettres de nouvelles, qui sont compatissants avec ma situation, qui élèvent mon nom et ma famille, mon ministère auprès de notre Père qui est commun, et de ce sentiment de la famille de Dieu, comme Nick dit, qu'on est un seul corps et on s'entraide les uns les autres, et de voir que les gens que je ne connais pas prient pour moi, même déjà d'un amour comme si on se connaissait depuis longtemps, ça m'a tellement ému, tellement émerveillé. C'est un privilège. Et j'écoutais les chants tantôt et je me rappelais d'où je viens, si vous saviez la grâce de Dieu dans ma vie. Dans la parole, on lit que Dieu sauve les choses folles de ce monde. Mais j'en suis la preuve vivante devant vous. Moi, je suis un petit garçon bien humble de l'Abitibi-Témiscamingue, né et grandi à Val-d'Or, petite ville. Et Dieu, dans sa grâce, m'a sauvé en 2015, il y a 9 ans. Et j'aime dire à la blague que le Québec est tellement une terre difficile pour l'Évangile qu'il a dû me sortir et me sauver en Ontario pour me ramener pour ce ministère qu'il a pour moi. Donc, comme Nick l'a bien présenté, je suis marié avec Esther Papillon, ma femme, ma bien-aimée depuis aussi 9 ans. Quand elle a vécu dans une famille chrétienne, mais elle n'avait jamais confessé Christ, elle ne suivait pas le Seigneur quand elle était plus jeune, elle a eu une enfant quand elle avait 18 ans. Et donc, quand je me suis marié avec elle, elle avait déjà une petite fille. Et donc, moi, d'un seul coup, je devenais un mari et un père d'une petite fille de 7 ans. Et maintenant, elle a 15 ans, donc c'est officiel. On a eu la grâce dans la providence de Dieu que le papa biologique n'a jamais été impliqué dans la vie d'Annabelle. Et donc, on a pu faire que je devienne vraiment son père, je l'adopte. Elle a mon nom de famille sur le certificat de naissance. Et donc, c'est ma fille. Et j'ai le privilège de pouvoir vivre justement cette dimension-là, hein, que Dieu nous adopte dans sa famille et nous aime. J'aime pas plus mes garçons que ma fille. C'est le même amour, ils sont partie de la famille, et donc j'ai eu déjà dans ma vie chrétienne, dès la conversion, ce témoignage-là qui était fort et qui était vivant dans ma vie. Donc, peu de temps après mon mariage, on a eu 2 petits garçons, comme Nick l'a dit, Jonas et Némi. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis seul ce matin. J'aurais aimé pouvoir me promener avec ma famille et tout ça. Mais mon garçon, au fond, Annabelle, Jonas et Némi, Jonas est autiste. Et dû à ça, dans le fond, tout ce que ça implique, tout ce qui est un changement pour lui, ça le bouleverse beaucoup. Et en ce moment, il est encore jeune et tout ça, ça n'aurait pas été bon pour vous, ni pour nous. Et donc, on se donne une chance là, de pouvoir l'épargner, ce trouble-là, et aussi d'avoir tous les faits de la suite là, en revenant à la maison. Donc, c'est pour ça que je suis seul. Et peu longtemps après ma conversion, hein, le Seigneur a mis un feu dans mon cœur, un désir, un appel pour le ministère à temps plein. Et donc, comme un bon chrétien au Québec, j'ai commencé à me former avec Sembec. Et donc, pendant 2 ans et demi, j'avais un coach à l'église qui est Mathieu Gauthier, le pasteur à temps plein là, à l'église évangélique d'aujourd'hui. Et au travers les années, j'ai commencé dans le bac et je prenais des cours, je me formais, j'avançais. Et après 2 ans et demi, les autres anciens de l'église, les membres de l'église ont reconnu mon appel et ont décidé de me mettre à part pour étudier à temps plein. Donc, moi, j'étais professeur en éducation physique et en anglais. Et donc, j'ai lâché mon travail séculier, j'ai commencé à me former pour une maîtrise avec une association de Sembec et Northwest Baptist Seminary pour faire une maîtrise en études pastorales. Et de fil en aiguille, au début, on n'était pas certain est-ce que mes dons, c'est plus, ou l'appel comme pasteur, comme évangéliste, j'avais des dons un petit peu dans les deux côtés, qu'est-ce qui allait ressortir plus fort et comment Dieu allait diriger. Et justement, dans sa providence, Dieu a permis que j'ai un enfant où ça l'a amené plusieurs complications à la maison. Au niveau de ma femme, donc il y a eu une dépression et tout ça. L'énergie n'était plus au rendez-vous. Et comme je dis, tout changement les affecte. Et donc, un déménagement, ça n'aurait pas été sage. Ça aurait été un suicide familial pour moi. Et donc, d'aller dans une autre église, je sais qu'il y a beaucoup d'églises qui ont besoin de pasteurs, besoin d'ouvriers. Mais c'est Dieu qui est souverain. Il a permis cette situation-là dans ma famille. Et donc, ça faisait en sorte que je ne pouvais pas aller ailleurs. Donc, je devais rester à Trois-Rivières-Bécancour. Et donc, je mettais ça devant le Seigneur à dire, « Seigneur, de quelle manière tu veux m'utiliser? Est-ce que je retourne à l'église enseignant dans l'enseignement et je suis pasteur à l'église, non rémunéré. Mais ça restait encore sur mon cœur. Il me semble que ce n'est pas ça. Mais c'est toi qui es souverain, Seigneur, je veux faire ta volonté. Donc, si c'est ça que tu veux m'utiliser, je vais retourner à l'enseignement et je vais être ancien. Et providentiellement, Dieu a dirigé les choses autrement, parce qu'avec des discussions avec d'autres personnes dans l'association, dans le centre de formation SEMBEC, avec Jean-Pierre Gagné et d'autres personnes, d'aller de l'avant et, comme missionnaire. Et donc, d'aller voir Steve Cloutier qui est avec Mission Québec, de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait dans ce sens-là. Et quand on dit que Dieu ouvre les portes, eh bien, pour moi, ce n'était même pas une catégorie existante, parce que ça ne l'existait pas avant. Mais il y a eu un partenariat de Mission Québec et le Fellowship, qui est notre famille d'églises baptistes au Canada, pour commencer à envoyer des ouvriers, des missionnaires québécois au Québec, puisque le Québec a été déclaré comme une terre missionnaire maintenant. Et donc, ça n'existait pas et ça a commencé. Je suis le premier. Il y en a d'autres maintenant, mais j'ai été le premier Québécois missionnaire au Québec. Et donc, Dieu a dirigé vraiment de cette manière-là. Je ne m'attendais pas à être missionnaire au Québec un jour. Et même voici, c'est vraiment ça que Dieu a mis sur mon cœur. Et la vision qui s'est transformée, où est-ce qu'on est rendu, c'est vraiment de gagner la Mauricie et centre du Québec, donc la région de Trois-Rivières vers Shawinigan et la rive sud, là, Bécancour, Drummondville, Victoriaville, pour Christ, par un mouvement de formation de disciples et par l'implantation d'église. Et donc, je ne fais pas cavalier seul, c'est désiré et recherché par le conseil de mon église, par les pasteurs, par les églises de la région, sont au courant et sont en partenariat avec moi aussi autant, par la prière ou financièrement. L'association me soutient aussi dans la prière et financièrement et désire œuvrer avec moi dans l'avenir pour voir cette vision-là s'accomplir. Maintenant, de quelle manière on fait ça? Je vous explique la vision en trois étapes. Donc, à court terme, moyen terme et long terme. Pour le court terme, c'est vraiment de rassembler, mobiliser le plus de personnes, plus d'églises possible pour prier pour cette vision-là, de prier pour moi, pour ma famille, pour le ministère. Parce que, comme vous le savez, bien, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas, absolument pas faire. C'est Dieu doit me devancer, doit visiter la Mauricie, le centre du Québec, et je vais être dans une guerre spirituelle aux tranchées, et j'ai vraiment besoin de personnes qui s'engagent. Merci d'ailleurs à la cellule de prière là, des Marino qui se sont engagés à prier pour moi. C'est tellement utile et ça paraît. Depuis que j'ai commencé à faire ma tournée de levée de soutien, de levée de prière, de partenaires, ça paraît. Et donc, prière premièrement. Ensuite, c'est vraiment de commencer localement. Parce que si je veux voir un mouvement de formation de disciples qui s'étend sur un territoire aussi large, je veux commencer avec une fondation solide là où je suis, donc Bécancour et les alentours. Et ça sur trois axes. Le premier, c'est de former des leaders. Donc, des personnes, des hommes qui vont être capables de reproduire ce que moi, je vais faire pour assurer une longévité dans le mouvement et que ça ne meure pas avec moi par la suite. Et donc, j'ai déjà commencé à former un jeune homme, Sébastien Lavoie, qui est mon protégé. En ce moment, je le coach dans ce sens-là et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il fait par la suite. Deuxièmement, formation dans l'église locale. Et donc, équiper les membres de l'église à l'évangélisation et la formation de disciples, pour les mobiliser dans ce mouvement-là, eux aussi. Parce qu'on voit que les gens ont à cœur d'aller, mais des fois, ils ne se sentent pas équipés, ils ne se sentent pas qu'ils peuvent et qui vont être efficaces, et donc de comment leur amener les outils et les mobiliser pour le mouvement. Et troisièmement, bien sûr, comme je suis missionnaire, d'être moi-même sur le terrain. Et donc, en ce moment, j'œuvre à deux endroits stratégiques, d'un côté de la rive sud et d'un côté de l'autre, de la rive nord, à Trois-Rivières. Je suis dans un centre communautaire qui s'appelle Entraide Bécancour, et donc pour être auprès de la communauté. Si je veux avoir un impact auprès des non-croyants, auprès des gens de la communauté, je dois être présent avec eux. Et donc, je fais du bénévolat dans cet endroit-là, et la manière que je fonctionne, c'est que je prie. J'utilise, peut-être vous êtes familier, je sais qu'il y a eu la formation ici, j'utilise la formation, l'outil « Je suis deuxième ». Et donc, qui n'est pas l'outil, le seul outil, mais c'est un outil qui nous permet de remplir le grand mandat que Dieu nous a donné, que Christ nous a donné, d'aller de faire des disciples. Et donc, pas seulement d'aller de faire des convertis, mais d'être en mesure d'amener quelqu'un qui n'est pas croyant au Seigneur, à Christ, et ensuite de l'amener à pouvoir lui aussi faire de le faire grandir en maturité, et ensuite de l'amener à faire lui aussi des disciples, et donc en mission tôt dans sa conversion. Donc, ce que je fais, je prie. Dieu de montrer les personnes qui ont soif, les personnes préparées, les personnes à qui je vais parler. Et de quelle manière je discerne ça? Bien, je pose des questions, je parle avec eux, je tends des perches. Et quand il y a une connexion, j'essaie d'aller plus loin avec la personne pour le conduire à Jésus. J'utilise l'évangile de Jean, donc les « je suis » semaine après semaine. Et dans la grâce de Dieu, il a ouvert une porte à l'entraide. J'ai pu conduire la psychologue de l'entraide à Jésus au début de cette année. Et donc, vraiment, gloire à Dieu, ça a été... J'étais juste émerveillé de voir, rencontre après rencontre, comment Dieu avait préparé et Dieu conduisait. Première des choses, j'étais tout préparé avec ma première rencontre, je savais où je m'en allais. Et en parlant avec elle, comment ça va, qu'est-ce que tu vis? Elle a deux garçons autistes. Et là, on commence, ah ouais, puis comment tu vis ça? Puis on connecte ensemble, puis point super, super proche. Et donc, je remets la leçon en plus tard parce qu'on a passé notre temps là-dessus. Et après ça, quand j'apportais les vérités de la parole de Dieu, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », donc là, on discutait des implications de ce passage-là. Et là, elle dit « Ah, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait plusieurs chemins pour se rendre à Dieu. » Mais Jésus le dit, là, c'est clair, c'est marqué ici, il y a un seul chemin. Mais écoute donc. Fait qu'elle acquiesçait la deuxième, à toutes les rencontres, c'était « Mais je ne pensais pas comme ça, mais c'est ça. » Puis elle progressait comme si, tout naturellement, je n'avais pas besoin de forcer les choses. Et dans sa grâce, Dieu a permis qu'elle vienne à Jésus en début de cette année. Et donc, je les ai commencé à la former comme disciple, à joindre, l'intégrer dans l'Église pour la formation de disciple. En ce moment, je suis dans l'université à Trois-Rivières. Et donc, je suis associé avec le groupe biblique universitaire, le GBU, pour avoir une table de livres avec eux et pouvoir partager l'Évangile avec les étudiants. Et le même principe. Quand les gens ont du temps un petit peu, je parle avec eux, c'est de discerner, les inviter dans un groupe d'études bibliques. Et quand les gens, des fois les étudiants sont pressés, ils font juste venir voir parce qu'ils sont curieux, bien, j'ai au moins l'occasion de leur annoncer l'Évangile. Et donc, c'est plus un aspect de semence large à l'université, mais dans l'entraide Bécancour, plus à long terme avec des relations. Et comme je disais, dans sa grâce, Dieu a permis déjà des fruits. Donc, il y a eu 3 conversions depuis l'année et demie qu'on a commencé. Sébastien et moi œuvrer dans ce sens-là. J'ai un groupe avec un homme qui habite proche de l'entrée de Bécancour avec sa sœur, avec qui je jouais aux cartes et qu'on a commencé à parler de Dieu, on a commencé les leçons. Sébastien a lui-même un groupe avec sa tante et une autre jeune femme de l'Église qui désire connaître Jésus. Et donc, il y a ces deux groupes-là qui sont en marche en ce moment. Si vous voulez prier pour eux, c'est très apprécié. Ensuite, moyen terme. Et c'est là que c'est très important. Je veux travailler très fort à mobiliser la région, les églises et les leaders pour un partenariat dans l'Évangile. Je crois vraiment que, et je suis convaincu que c'est l'avenir de l'Évangile au Québec. On est une province jeune dans l'Évangile, avec peu de ressources, et on se bute constamment avec le manque de ressources humaines. Vous voyez, les pasteurs, on va prêcher ailleurs, manque de pasteurs, manque d'ouvriers, manque de tout. Et les finances, il faut aller chercher des sous, on est constamment dans cette dynamique-là. Et donc, de s'allier ensemble pour une cause qui nous est commune, pour combattre le syndrome du clocher. C'est pas notre royaume à nous à Bécancour, c'est pas votre royaume à vous ici à Pierrefonds, Emmanuel, c'est pas le royaume à Shawinigan, c'est le royaume de Christ. Et comment est-ce qu'on peut mettre nos ressources ensemble pour viser cette cause-là qui est plus grande que nous, qui nous dépasse? Alors, je vise vraiment ça avec les 5. Il y a 5 églises de la famille de la BEC, dans la région de Mauricie-Saint-du-Québec, comment les mobiliser ensemble pour faire un partenariat pour cette cause de Christ. Et ça va être d'autant plus important pour la troisième phase, qui est à long terme, d'implantation d'église. Parce que si on veut pouvoir, tu sais, la méthode, avant on envoyait un implanteur d'église, il allait dire « Que Dieu te bénisse, mon ami », et on le laissait aller. Alors souvent, ce que ça a produit, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais souvent ce qu'on voit, ce que ça produit, c'est que l'homme en question doit prêcher tous les dimanches, il fait tous les ministères, sa femme aussi, puis là, l'église et les ouvriers se brûlent rapidement. Et donc, on voulait implanter une église pour agrandir le royaume, pour continuer la mission. Et là, avec ce phénomène-là, ce que ça fait, c'est que souvent, ça s'étouffe et on se retourne pour prendre soin les uns les autres parce qu'on est fatigué. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas avoir. Alors, si on peut, par le mouvement de formation de disciples, que Dieu bénisse, bien sûr, ce n'est pas nous qui allons faire ça, mais qu'il y ait des conversions dans un secteur, et que là, on arrive à 20-30 conversions, des jeunes croyants, on veut implanter une église, et là, on envoie un implanteur d'église avec eux, mais pas lui seul. Si les cinq églises se partagent des ressources et envoient une famille, deux familles, un ancien, un diacre, un directeur de louange, et pourvoient financièrement aussi, et qu'est-ce qu'on fait quand on donne des ressources humaines et financières? Bien, on prie aussi. Alors là, des prières, et donc, au lieu de commencer à 30 avec un implanteur et sa femme, on est 50, on a des ressources, on a déjà des anciens, on a une église qui est forte dès le début, et donc, des personnes qui se sont converties dans le mouvement de formation de disciples, qui sont déjà avec l'ADN d'être en mission, et des gens qui quittent leur église pour aller à une implantation, ce n'est pas des gens absolument qui veulent réchauffer les bancs, c'est des gens qui veulent aller. Et donc, on a une église qui naît, qui est déjà forte, et qui peut être la base pour devenir une église qui va ensuite fonder d'autres églises, en partenariat avec les autres églises déjà existantes. Donc ça, c'est le plan. Encore là, c'est entre les mains de Dieu. Et c'est ce que je vous remets pour la prière. Et comme vous savez, je l'ai dit, mon premier et mon plus grand besoin, c'est les prières. Mais il y a aussi la réalité financière. Et donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour votre soutien comme Église. Et je fais un appel à vous, si Dieu vous met à cœur de vouloir investir dans ce ministère, au travers de moi, mais dans la cause de Dieu, en Moxie-Centre du Québec, un des besoins que j'ai et qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir des individus ou des familles qui me supportent, à la fois financièrement dans la prière, mais dans des dons qui soient par mois, par année, mais des dons fixes qui rentrent pour pouvoir atteindre le 100% et pouvoir être libéré sur le terrain à temps plein. Et donc, je suis rendu en ce moment à peu près à 85% de mon soutien financier. Et donc, les prochains vont vraiment être ce qui va permettre d'arriver à 100% et d'être libéré pour cette tâche. Donc, ça, c'est pour moi. Maintenant, une question pour vous. Qui a déjà lu un livre? Levez la main. Quand même facile, on commence simple. OK. Qui a déjà passé par-dessus l'introduction ou la préface d'un livre pour aller directement dans le chapitre 1? Quand même. Mais vous savez, moi aussi, je suis comme ça. Savez-vous pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on se dit qu'il n'y a pas assez de matériel qui vaut la peine, de s'arrêter dans l'introduction et que la vraie viande, le vrai contenu commence au chapitre 1, alors on s'en va directement au chapitre 1. Mais ça, c'est vrai juste pour les livres séculiers. La Bible, elle, est inspirée de Dieu et utile pour notre édification, pour notre foi et pour notre pratique dans tous les passages. Et c'est pourquoi j'aimerais partager avec vous ce matin dans la lettre de Paul à Tite, les premiers chapitres, ce qu'on appelle communément l'introduction, versets 1 à 4, et voir avec vous les trésors qui s'y cachent. Donc, si vous avez vos Bibles, tournez avec moi en Tite, chapitre 1, versets 1 à 4. Sinon, il devrait y avoir le texte à l'arrière. Donc, Tite, chapitre 1, versets 1 à 4. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps, et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ce privilège qu'on a d'être réunis devant toi ce matin pour entendre ta parole. Ô Dieu, tu connais notre chair qui est si faible et nos pensées qui s'égarent si facilement. Les préoccupations de la vie qui nous envahissent, Seigneur, de ce qui s'est passé cette semaine, de ce qui s'en vient. Je te prie de chasser ces pensées-là, me donner d'être complètement et entièrement concentré à ce qu'on va entendre. De préparer, Seigneur, divinement et puissamment nos cœurs, notre intelligence, à recevoir ta parole, et pas seulement la recevoir et l'écouter, mais la comprendre et la mettre en pratique, comme des disciples de Jésus. En son nom. Amen. Donc, la prédication de ce matin va suivre la structure du texte en deux points. Premier point, servir Dieu. Deuxième point, joindre l'œuvre de Dieu. Donc, premier point. Au verset 1, Paul se présente comme étant le serviteur de Dieu. Et là, on pourrait se dire, ben, c'est simplement une formalité. Paul se présente et on continue à lire et on passe par-dessus, comme si ce n'était pas important. Mais je vous propose que c'est important et qu'on puisse s'arrêter sur qu'est-ce que Paul veut dire quand il se présente de cette manière-là. Et c'est d'autant plus important que quand on réalise que le mot original, dans le langage original, que Paul utilise ici, c'est le mot « doulos ». Et ailleurs, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le mot qui est traduit aussi par « serviteur », il y a un autre mot qui se dit « diakonos ». Et donc, pourquoi Paul a choisi un plus que l'autre? Et donc, on va voir ensemble que c'est très important, cette nuance-là. Diakonos, on va commencer par diakonos. C'est quand, il est dans le contexte où, aux noces de Cana, les personnes qui servaient le vin au mariage sont appelées des diakonos, des serviteurs. Quand Jésus nous appelle, nous demande d'être des serviteurs les uns les autres, il nous demande d'être des diakonos les uns les autres. Et comme vous devez vous en douter, le mot qui est traduit pour diacre, le rôle dans l'Église, vient du mot diakonos. Maintenant, et puis la définition de ce mot-là, c'est comme le serviteur qu'on a en tête habituellement, c'est un domestique, un subordonné. Le mot doulos que Paul a choisi, similaire, mais avec une nuance très importante. La définition du mot doulos, c'est un serviteur lié ou encore un esclave. Et je sais que dans notre tête comme Québécois, ça peut sonner très négatif, le mot esclave, à cause du bagage qu'il y a et tout ça. Mais si on enlève tout ça et qu'on fait simplement regarder c'est quoi la définition d'esclave, bien on va comprendre à quel point c'est un bon choix de mot de la part de Paul. Un esclave, c'est une personne qui ne vit pas sa vie selon sa propre volonté, mais selon la volonté de son maître. C'est une personne qui ne sert que les intérêts d'un seul, son maître. Et donc, voyez-vous, Paul choisit intentionnellement ce mot-là pour décrire sa relation avec Dieu. Rappelez-vous, Paul qui était Saul de Tarse, hein, qui persécutait les chrétiens, et un jour, le Seigneur ressuscité lui apparaît sur la route de Damas et lui dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu? » À ce moment-là, Paul, imaginez comment Paul a dû se sentir, de réaliser que le Dieu qu'il pensait servir était finalement celui qu'il persécutait. Et à ce moment-là, Paul s'est mis entièrement et complètement au service de son nouveau maître, Jésus-Christ. Il ne faisait plus aucun cas de sa vie. Il voulait le servir et le servir entièrement. Et peut-être que vous vous dites, « OK, Hugo, c'est bien beau ça. Oui, Paul, on comprend que c'est l'apôtre, hein, l'apôtre Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il a joué un rôle particulier dans l'histoire de la rédemption. Mais, c'est pertinent pour lui. Lui, il est esclave de Dieu, mais est-ce que c'est pertinent pour nous, le commun des chrétiens? Bien, ma réponse que j'aurais pour vous, c'est qu'est-ce que Jésus demande à ceux qui veulent le suivre? Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et je sais que c'est un verset qui est bien connu et peut-être un peu trop familier avec nous. Mais de considérer les exigences que Jésus donne à ceux qui veulent le suivre. Le salut est gratuit, mais ça nous coûte tout. Ça coûte notre vie. Et ce qui est vraiment important de réaliser dans ce passage-là, c'est à quel moment Jésus le dit. Est-ce que c'est à quelque part dans notre marche chrétienne alors qu'on arrive à l'élite spirituelle? Non! Les personnes à qui Jésus s'adresse ne sont pas encore ses disciples. Et donc, c'est pour devenir disciple. Ça devient donc la base du chrétien. Le minimum de ceux qui se disent disciples de Christ doivent avoir donné leur vie entière à Jésus-Christ. Tout lui appartient. Paul Washer, un prédicateur des États-Unis que j'aime beaucoup, a dit ceci. Personne ne peut être réellement utile pour Dieu sans s'être complètement dépouillé de lui-même pour soumettre entièrement sa volonté à celle de Dieu. Tu veux être puissamment utilisé par Dieu? Tu dois mourir à toi-même. tout ce que tu es, ce que tu as, ton temps, ton argent, tes pensées, tes paroles, même ton corps. Tout est à Christ. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Et c'est ce que Paul nous rappelle en 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et cette image-là qu'on voit, que Paul nous expose, l'image du rachat, d'avoir été racheté par Christ, c'est justement et exactement ce qu'on voit dans l'Antiquité, où un homme pouvait acheter un autre être humain, un esclave, avec une somme d'argent. Mais il pouvait aussi payer la même somme d'argent pour libérer cet homme. Et c'est exactement ce que l'Évangile nous présente, cette double image du rachat, que nous étions esclaves du péché et de Satan, mais Christ a payé pour le prix du rachat, pour nous racheter, nous libérer, mais aussi payer pour qu'on lui appartienne. Et donc, maintenant, on appartient entièrement, exclusivement à Christ. Voyez-vous, c'est pas d'être esclave de Christ, c'est pas simplement ce que Paul voulait décrire, sa relation avec Dieu, et qu'on est encouragé à imiter. C'est un principe normatif de la Bible, de la vie du chrétien. C'est ce que nous sommes. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, doit servir à sa volonté et à sa gloire. Ce qu'il faut comprendre, c'est par droit de création, Dieu étant notre créateur, il mérite par ce fait même. On a une obligation morale de soumettre notre volonté à la sienne et de vivre pour lui. Mais on doit rajouter à ça le fait qu'il est notre rédempteur. Et donc, par une double obligation, on a une double obligation de vivre entièrement pour lui et de soumettre notre volonté à la sienne. Et oui, c'est une obligation. Mais vous, frères et sœurs, vous savez qu'on ne le fait pas par obligation. Vous qui avez connu la grâce de Dieu dans vos vies, on le fait par un débordement d'amour et de reconnaissance pour lui. Et pour nous, c'est évident. Ça coule de sens. Mais pour ceux qui n'ont pas connu la grâce de Dieu, pour eux, c'est pure folie. Ils ne comprennent pas. Et je vous donne un exemple pour exposer ce point-là. Quand je me suis converti, je m'en vais chez un de mes amis d'enfance et il y avait son jeune frère qui était là, qui devait à peu près avoir 19 ans. Et je commence à leur dire mon témoignage, que je viens de rencontrer Dieu, que j'ai donné ma vie à Jésus, que je vais vivre maintenant pour lui. Et là, le jeune frère de mon ami me regarde et est comme, « Man! Dude! Qu'est-ce que tu fais là? » Pour lui, c'était « complete nonsense ». Ça faisait aucun sens. Il me regardait comme si j'étais devenu malade mental ou que j'étais rentré dans une secte ou les deux en même temps. Là. Il me disait, je me rappelle même ses mots exacts, il m'a dit, « Pourquoi tu ne serais pas ton propre Dieu? » Bien, classique du cœur pécheur. Hein? Il me disait, « Tu es une personne à part entière, tu as tes propres rêves, ta propre volonté, vis pour toi. » Mais pour lui, c'est ça. Il ne comprenait pas. Mais pour vous, vous comprenez. Et pour moi qui étais un pécheur, un blasphémateur, un idolâtre, pour moi, le Dieu de l'univers, le Dieu trois fois saint, le Dieu de gloire, a quitté son ciel, est venu sur la terre s'incarner. On a chanté tantôt Emmanuel, est venu sur la terre faire et marcher la vie parfaite que moi, je ne suis pas capable de faire. Il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix pour prendre sur lui la condamnation éternelle qui m'était destinée. Il a dû, lui, s'écrier, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Lui, le Fils de Dieu, pour que moi, je ne sois jamais abandonné. Et maintenant, par la foi, je suis pardonné de mes péchés, adopté comme fils du Dieu très haut, et j'ai la vie éternelle. Comment est-ce que je pourrais vivre autrement qu'entièrement pour lui? Toute autre chose qui s'éloigne de ça ne ferait aucun sens. Et je prends les mots de Paul parce qu'il dit tellement bien en Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Et entendez-moi bien, on n'est pas tous appelés à vivre des vies aussi capotées que Paul. On n'est pas obligé d'aller prêcher dans les synagogues, d'être lapidé, de passer par les 40 coups moins un. Ça va être tout dans les, pour la plupart dans les petites choses du quotidien. On a tout un appel différent pour Dieu. Et ça va être d'être fidèle et ça va être de vivre comme Paul, entièrement pour Jésus. Mes frères et sœurs d'Emmanuel, je vous invite ce matin à considérer la grâce de Dieu qui vous a été faite. Considérez qui vous étiez, où vous étiez avant que Christ vous rencontre. Perdu dans les ténèbres, ennemi de Dieu. Et considérez maintenant la grâce que Dieu vous a faite, où vous êtes et qui vous êtes maintenant. Des fils et des filles du roi des rois, scellés pour la vie éternelle. Quelle gloire! Et considérez maintenant aussi l'appel unique de Dieu pour votre vie. À quoi Dieu vous appelle? Comment est-ce que vous pouvez le servir maintenant? Mettez ça en prière et considérez. Et mourez à vous-même, jour après jour, au quotidien, afin de laisser vivre Christ toujours plus, afin d'être des serviteurs, des servantes, des doulos de Dieu. Après s'être présenté comme serviteur de Dieu et comme apôtre de Jésus-Christ, Paul va continuer en présentant sa charge. Et vous pouvez remarquer dans vos Bibles, ou à l'arrière, si on peut remettre le texte, il y a des tirets immédiatement après, je vais revoir ici, là, après Christ et avant j'ai été, dans le verset 1, et ensuite, il y en a un autre à la fin du verset 3. Et donc, ça, c'est des éléments que Paul a ajoutés dans son introduction qu'il ne met pas habituellement. Si vous remarquez, dans toutes les autres lettres, à part Romains, il va constamment se présenter, Paul, apôtre de Jésus-Christ, et ensuite adresser ses destinataires directement à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à Timothée, etc. Mais ici, il insère quelque chose, et donc, ça devrait nous donner un indice que ça doit être super important. Et je vous propose qu'on puisse s'arrêter et regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a dans ce passage-là, et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point, qui est de joindre l'œuvre de Dieu. Pourquoi joindre l'œuvre de Dieu alors que Paul la présente comme sa charge? Bien, c'est, rappelez-vous, bien que ce soit la charge de Paul, Paul est utilisé par Dieu pour accomplir la volonté. Et donc, il joint le travail de Dieu, il est son serviteur dans ce sens-là. Paul dit, « J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance qui est conforme à la piété. » Et ici, la traduction du début de cette phrase-là est complexe dans le langage original en grec, et c'est pour cela qu'il y a différentes traductions dans les Bibles. Peut-être que vous n'avez pas la même traduction que moi. Certaines vont traduire « chargé d'amener ceux que Dieu a choisis », qui est celle que j'ai prise ce matin. D'autres vont dire « pour la foi des élus de Dieu », et d'autres « selon la foi des élus de Dieu ». Et inquiétez-vous pas, c'est toutes des traductions qui sont possibles et valides. Par contre, c'est ce point-là qui a amené certains commentateurs à se demander, finalement, dans le texte ici, en étudiant la Bible, c'est quoi la charge de Paul, que Paul présente? Est-ce que c'est de conduire les élus de Dieu à la foi, ou c'est de fortifier les élus de Dieu dans leur foi? Et moi, je vous propose que c'est un faux dilemme, et que c'est les deux ensemble, que Paul a choisi intentionnellement un mot plus complexe, plus large, pour pouvoir inclure les deux dans sa charge. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est ce qu'on voit partout, dans le Nouveau Testament. Paul se promène de ville en ville dans les synagogues, il prêche l'Évangile et des gens se convertissent. Et ensuite, il repasse dans les mêmes églises pour fortifier, former les disciples, il instruit, il enseigne, exhorte, reprend, pour donc bâtir les croyants dans leur foi. Et donc, ce seraient les deux. Et dans ces versets, on voit que Paul présente ceux qui vont croire et ceux qui croient comme étant élu, choisi, dépendamment des versions, de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que avant même la création du monde. Et c'est un fil conducteur dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un texte isolé. Là, dans Éphésiens 1, Romains 8, 1 Pierre 1, on voit ce même principe-là, que avant même la création du monde, Dieu s'est choisi un peuple, des individus, qui allaient un jour dans le temps appeler, qui allaient éternel. Donc, voyez-vous, ceux qui sont glorifiés à la fin, voyez-vous cette chaîne indissociable, c'est eux qui ont été prédestinés au début. Et remarquez que Paul en parle comme étant au présent. Il leur a accordé la gloire. Moi, quand je vous regarde, puis je me regarde, là, désolé pour vous, mais je ne nous vois pas dans la gloire. Comment Paul peut en parler au présent? Eh bien, c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui le fait, c'est pour ça qu'il peut en parler comme étant présent. C'est tellement assuré, sûr, que Dieu a commencé cette belle œuvre, va la terminer, que c'est déjà fait. Il leur a accordé la gloire, ça attend juste le moment que ça arrive. Si c'était sur nos épaules à nous, si on avait une part à jouer, jamais Paul aurait pu dire « il leur a accordé la gloire ». Jamais. Mais c'est Dieu qui le fait. Et ça n'a jamais dépendu de nous, ça ne dépend pas de nous. Et ça ne va jamais dépendre de nous. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu, de toute éternité, qui a décidé, dans sa miséricorde, d'étendre sa grâce et son amour sur des êtres qu'il ne méritait pas, qui n'en étaient pas dignes, comme vous et comme moi. Je vais juste prendre le temps d'adresser l'aspect de l'évangélisation en lien avec cette réalité-là. Parce qu'il y en a certains qui me disent... bien, à quoi ça sert d'annoncer l'Évangile si, de toute façon, il y en a qui vont croire que c'est déjà planifié, il y a des élus. Eh bien, je vous propose, premièrement, que si c'est vrai, il faut y croire puis abonder dans ce sens-là. Et deuxièmement, que ça ne devrait pas être une nuisance ou un obstacle à l'évangélisation, mais bien le contraire. Ça devrait être un encouragement, un soulagement, et c'est un grand privilège. Dieu travaille de cette manière-là. Il nous utilise et il œuvre au travers de nous. Et c'est ce qu'on voit partout dans toutes les sphères de notre vie et même dans la Bible. Pensez avec moi au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament avec Josué quand Dieu leur avait dit « Je vais vous donner le pays. Je vous le donne. » Mais ils ont dû marcher et là aller se présenter devant le Jourdain. Et comme peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis et ont dit « Super, Dieu va nous donner le pays. » Ils ont entendu? Non. Ils se sont mis en marche et ils ont traversé le Jourdain. Dieu a dit « Je vous donne Jéricho. » Ils ont tourné autour de la ville. Et Dieu a agi au travers eux. C'est toujours Dieu, il œuvre au travers nous, il nous utilise, on joint son travail. Il a besoin de nous à rien. Mais comme un bon père, il veut nous utiliser, nous donner la joie de prendre part à ce que lui fait sur terre. Cette œuvre de rédemption, on peut y prendre part et être spectateur de sa grâce et de le glorifier au travers ça. Et non seulement ça, mais ça nous donne une certitude que Dieu va sauver. Pensez à Paul aussi, qui s'en va dans Actes 18, on voit, Paul s'en va pour aller à Corinthe et Jésus le rencontre et lui dit, « N'aie pas peur, va et parle, car j'ai un peuple nombreux. » Paul ne s'est pas dit, « Fantastique, il y a un peuple nombreux à Corinthe, c'est fait, m'en va à Éphèse. » Non, il est allé à Corinthe, il s'est installé pendant un an et demi, il a enseigné, il a prêché, parce qu'il savait qu'il y a des gens qui allaient se convertir. Avec courage et assurance, placé dans la foi que ce n'est pas sur lui, ses efforts, mais c'est Dieu. Ah là, à quel point on peut annoncer l'Évangile avec assurance? Parce que ce n'est pas notre œuvre. Ce n'est pas vous qui allez ramener les morts à la vie. En tout cas, si vous êtes capable, dites-le-moi, j'aurai besoin de vous dans mon équipe pour les prochaines années. Mais je ne pense pas que vous êtes capable, je ne pense pas me tromper. Mais c'est ça le point. C'est un œuvre de l'esprit. Les gens sont morts dans leur péché. Ils doivent avoir une vie spirituelle. Que le Saint-Esprit vient faire et que nous, on joint simplement cette œuvre-là, on annonce l'Évangile et eux se convertissent. Et c'est là que le fardeau de sauver des âmes peut s'élever et qu'on peut œuvrer et faire de l'évangélisation dans la paix et dans la joie du Seigneur de joindre son œuvre. C'est son œuvre. Mais la charge de Paul ne s'arrête pas là. Il continue dans le même verset en disant qu'il a aussi été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Maintenant, qu'est-ce que la piété? Si on veut bien comprendre notre texte, on doit comprendre qu'est-ce que la piété. Il dit, dans le dictionnaire de Larousse, je n'aurais pas pu mieux l'exprimer, il dit « C'est une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. » Et ici, le point de Paul est double. Il y a une partie du côté de Dieu, il y a une partie du côté de l'homme. Et je vais relire le passage pour que vous puissiez bien suivre avec moi. Il dit « J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. » Et donc, la manière dont Dieu œuvre pour produire en nous une vie de piété, nous transformer à l'image de Jésus, nous sanctifier, c'est par la vérité qui est sa parole. Et donc, c'est pourquoi c'est autant important de s'immerger, de s'exposer à la parole de Dieu au quotidien, dans la Bible, et comme vous le faites ce matin à tous les dimanches, comme peuple de Dieu, parce que c'est le moyen que Dieu a choisi. Pas le moyen que nous, on aurait choisi, mais c'est le moyen que Dieu a choisi pour nous bâtir comme disciples, pour nous amener à la croissance, à la maturité spirituelle, c'est par sa parole, par la vérité. Et la partie de l'homme maintenant, c'est qu'il ne doit pas y avoir une dissonance entre ce que tu crois et ce que tu fais. Et c'est quelque chose que j'entends souvent, probablement vous êtes familier avec ça au Québec, hein, avec le background catholique, des gens qui nous disent « je suis croyant, mais pas pratiquant ». Alors pour ça, Paul il dit « c'est une catégorie qui n'existe pas ». Pour Paul, ce n'est pas une option. Donc Paul veut avertir Tite, dès au début de sa lettre, d'enseigner les Crétois, les avertir du danger, du ticket de l'Évangile, du ticket vers le ciel gratuit. C'est quoi ce danger-là? C'est que tu es sauvé, et puis là, il ne se passe rien. Tu stagnes, il ne se passe rien, et puis là, tu es sauvé. Non! Paul dit non. Pour Paul, dans la vie de celui qui confesse Christ, il y a des fruits ici et maintenant dans la vie présente. Pourquoi? Parce que l'Esprit vient habiter le croyant et c'est lui qui produit ces fruits-là nécessairement. Joël Bick, qui est un théologien réformé, nous dit que le salut par la grâce va main dans la main avec un mode de vie saint et la poursuite de la sainteté, sans toutefois tomber dans le piège du légalisme. Et donc, de lire toutes les disciplines spirituelles qu'on peut avoir, que ce soit de lire la Bible, de prier, la communion avec les frères et sœurs à l'église locale, même les bonnes œuvres, ce n'est pas du légalisme. Ça peut l'être, ça peut le devenir, si tu le fais en désirant t'attirer la faveur ou la justice de Dieu dans ta vie. Mais si tu le fais de bon cœur, eh bien, c'est simplement des moyens de grâce que Dieu nous donne. Encore une fois, Dieu n'a pas besoin de ça. C'est pour nous. C'est bon pour nous. Et je vais donner un exemple pour bien comprendre. De la même manière qu'on n'est pas obligé de manger, de boire ou de dormir, eh bien, on le fait. Parce qu'on le sait que si on ne le fait pas, il va y avoir de graves problèmes de santé qui vont s'en suivre. Personne ne vous oblige à le faire, mais vous le faites pareil parce que vous savez que c'est bon pour vous. Et Dieu nous a créés humains, avec un corps et avec un âme. Et le corps a des besoins, comme je l'ai dit tantôt, manger, boire, respirer, dormir. Et l'âme aussi a des besoins. C'est de rencontrer Dieu dans sa parole ou dans les autres moyens de grâce qu'il nous a donnés. Je vais devoir aller un petit peu plus rapidement parce que le temps file. Je vais aller au dernier verset, verset 4. Paul mentionne que Tite est son véritable enfant dans la foi qui leur est commune. Et donc, Paul a probablement conduit Tite à la foi. Et si ce n'est pas le cas, il l'a très certainement formé comme disciple. Et on voit qu'il est rendu maintenant un délégué apostolique qui va mettre de l'ordre sur l'île de Crète, établir des anciens. Ce n'est plus un bébé dans la foi. C'est rendu un chrétien mature, un homme de Dieu qui est prêt, qui est fait. Et ça ne s'est pas fait tout seul. C'est Paul qui l'a formé. Oui, Dieu a utilisé Paul, c'est Dieu qui l'a fait, mais c'est Paul, concrètement, sur le terrain, qui a formé Tite. Et donc, Dieu aurait pu utiliser toutes sortes de manières. Il aurait pu même dire, je vais former chacun de mes disciples en silo individuel, sans aucune aide extérieure. Mais Dieu, dans sa sagesse, a décidé d'utiliser des disciples de Jésus qui allaient former d'autres disciples de Jésus pour les faire grandir à maturité. Et le mandat que Dieu nous donne, que Jésus nous a donné, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Et oui, l'idéal, c'est vraiment de conduire quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et de l'amener à connaître Jésus et de former cette personne-là comme disciple dans les premiers pas de la foi et de l'accompagner. Mais il y a toujours des possibilités au sein de l'Église locale. Il y en a qui sont plus expérimentés ici dans la salle, dans la foi, plus âgés dans la foi. Il y en a qui sont plus jeunes dans la foi et moins expérimentés avec le Seigneur. Et justement, dans la même lettre, Paul va dire à Tite que les dames plus âgées dans l'Église, un de leurs services, de leur appel, c'est de prendre soin des femmes plus jeunes pour leur montrer comment bien prendre soin de leur maisonnée, bien aimer leur mari, être rempli de bonté, tout ça. Et là, on parle des femmes, mais c'est la même chose pour les hommes. D'accompagner un plus jeune. Ça peut être des couples, un couple plus âgé qui accompagne un couple qui va se marier ou qui vient de se marier pour leur donner des conseils, pour les tenir redevables, pour les préparer à ça. Ça peut être même un célibataire qui est plus âgé dans le célibat qui accompagne un jeune qui vient de se convertir à 22 ans. Comment vivre ça? Avec pureté, avec patience. Et donc, la formation de disciples au sein de l'Église locale. De s'investir dans une autre personne. Et je sais, ça coûte du temps et de l'investissement. Mais, comme on l'a vu au début de la lettre, ceux qui sont esclaves de Christ, ils veulent servir les intérêts de leur maître. Et si le Seigneur nous envoie, si on est ici pour ça, pour faire des disciples, c'est son cœur. À quel point on devrait rechercher à être obéissant dans cette mission-là? Et je sais que c'est... peut-être que vous ne vous sentez pas équipé pour ça. Deux points pour vous. Première des choses, c'est l'œuvre de Jésus premièrement. Jésus est venu avant nous. Et qu'est-ce qu'il a fait dans son ministère principalement? Il a pris des hommes, une poignée d'hommes, il les a formés comme disciples et il les a envoyés. Et maintenant qu'il est parti, qu'est-ce qu'il dit? Comme le Père m'a envoyé, maintenant je vous envoie. Alors nous, on continue la mission de Christ ici-bas sur terre. Alors, c'est son cœur premièrement. Qu'est-ce qu'il nous demande à nous, c'est d'être fidèles. Pas se demander est-ce que ça va marcher, est-ce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine, c'est sûr. C'est lui qui nous envoie. Il ne nous a pas laissés orphelins pour cette œuvre-là. Il a dit, et moi j'aurais aimé mieux avoir Jésus en personne à côté de moi, il a dit, il vaut mieux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne nous habiter, nous équipe pour l'œuvre du ministère. On n'est pas seul. Et même dans l'Église locale, la sagesse et la gloire de Dieu, vous avez des pasteurs qui ont été donnés pour, comme je l'ai dit tantôt, équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Ils sont là pour vous aider, vous accompagner, vous équiper pour faire ça. Alors, je vous invite ce matin à considérer servir le Seigneur dans ce domaine-là. Réfléchissez, mettez-en prêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Église que je pourrais accompagner, former? Si c'est vous aussi, d'avoir l'humilité de dire, est-ce que je pourrais aller demander à être accompagné, à être formé? Et ça, frères et sœurs, c'est le cœur de Dieu dans l'Église locale et c'est donc une façon concrète de servir Dieu et de joindre son œuvre. Je termine avec la bénédiction de la lettre que Paul adresse à Tite. Et ce que je veux vous remarquer, c'est que pour pouvoir recevoir cette bénédiction-là, eh bien, c'est seulement ceux qui appartiennent à Jésus-Christ qui peuvent la recevoir. Pourquoi qu'on sait ça? Et Paul dit que Dieu est leur Père et que Jésus est leur Sauveur. Et donc, c'est un pronom personnel. Et si tu ne peux pas t'approprier cette bénédiction-là, parce que tu n'as pas encore fait de Jésus ton Sauveur personnel, je t'invite ce matin, repens-toi de tes péchés et place ta foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul chemin par qui on peut aller à Dieu. Il tend la main. En ce moment, c'est un temps de grâce. où Dieu tend la main au pécheur pour être réconcilié avec lui. Un jour, ce temps va être trop tard, où Jésus va revenir et tous les êtres humains vont devoir rendre compte à leur Créateur. Et ceux qui seront trouvés en Jésus par sa justice pourront aller avec lui pour le bonheur, la joie et la paix éternelle. Alors que ceux qui auront rejeté la grâce de Dieu et son Fils Jésus iront pour la perdition et le châtiment éternel. C'est disponible pour toi. Ne rejette pas la grâce de Dieu et cours te réfugier à Jésus ce matin. Prions ensemble. Seigneur, j'implore ta grâce sur cette Église. Je te prie de les bénir, de les fortifier dans leur être intérieur. Je te prie de pourvoir tout ce dont ils ont besoin et je te rends grâce pour la richesse qu'ils ont de pouvoir avoir cette équipe pastorale qu'ils peuvent partager avec les églises autour. C'est ton œuvre, ô Dieu, et merci pour le privilège qu'on a d'y participer. Bénis chacun de mes frères et sœurs cette semaine, accompagne-nous dans ta grâce et sois glorifié en tout. En Jésus. Amen.